Ce podcast est une production Blabla Studio.
Track Record, c'est le podcast qui donne la parole aux DJ. Vous entendez leur son partout, nous vous proposons ici d'écouter leur voix. Je suis Pauline de Saint-Sauveur. Après 10 ans passés en communication pour des grandes marques, je deviens rédactrice freelance, d'abord sur des sujets mode et beauté, puis je m'attaque à mon autre passion, la musique électronique. Track Record est né de cette envie, partager avec vous la découverte de personnalités tout aussi passionnantes que leur musique. Alors j'espère que vous aurez envie de monter le son et d'appuyer sur Play. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois le duo de DJ et producteurs Tim et Pierre, alias Chambord. Bienvenue à vous deux.
Hello.
Bonjour à tous.
Un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 7e épisode de Track Record, et le premier en duo surtout, au début d'un été qui s'annonce stratosphérique pour vous. D'abord, il y a votre summer tour qui vous emmènera notamment à Ibiza avec Storytellers et à Mykonos avec Gardens of Babylon. Il y a aussi la création de votre nouveau label Around Midnight, sur lequel vous venez tout juste de sortir un superbe remix de Ray Conner de Radiohead. Sans compter les festivals comme Marvelous Island où on s'est rencontrés et les tournées notamment en Amérique du Sud que vous avez enchaînées, on peut dire que ces derniers mois, vous n'avez pas arrêté. Donc je suis ravie que vous preniez le temps de cette grande demi-heure pour vous poser avec moi et nous faire découvrir un peu plus votre galaxie Chambord qui est actuellement en pleine expansion. Pour vous présenter rapidement à ceux qui ne vous connaissent pas, vous vous êtes rencontrés en 2009 et vous avez commencé à faire de la musique ensemble en 2013 sous un autre nom. Le projet Chambord date de 2019, mais en 3 ans, vous avez déjà sorti plus de 10 singles et EP. Vous avez joué avec des pointures comme Monolink ou Acid Poly pour ne citer que. Et il y a déjà parmi vos productions plusieurs titres incontournables comme Wonderland et Mamentia sorti en 2020, mais aussi Distant Time sorti en 2021. Votre dernier titre, Life is Strange, date d'il y a quelques jours sur le label Wayou Records, avec des remixes de Shinobi, c'est ça, et Lunar Plain. Sur celui-ci, comme sur It's Been a While, sorti l'année dernière, on sent une évolution d'un univers plutôt ethno et afro à vos débuts, vers des sons plus minimaux, deep tech et psyché. Vos voix apparaissent également, comme si le fait de voyager autant depuis la fin du confinement vous ramenait finalement un peu à la maison, aux origines de la French Tech, mais avec votre touche solaire et ascendante qui rend également vos lives très lumineux et fédérateurs. Même sur un titre comme Ray Conner, qui semblait plus fait au départ pour la retraite solitaire d'un cœur brisé que pour une soirée endiablée, votre interprétation parvient à l'amener sur une couleur d'espérance et de lever de soleil sur Ibiza, qui fera sûrement un carton cet été. En fait, si je voulais essayer de résumer Chambord à une comparaison, ce serait peut-être un duo de graffeurs pas si fous qui bombent de couleurs à la fois vives, précises et inattendues des espaces musicaux qu'ils investissent à leur manière avec une spontanéité qu'on n'entend plus forcément partout. Est-ce que ça vous convient comme présentation ?
Ouais, 10 sur 10, hein. Moi j'aime bien.
Sachant que nous-mêmes on n'arrive pas à parler de notre projet, c'est bien mieux.
Ah ben on va faire ça pendant 40 minutes avec vous, donc c'est parti. Ça m'amène à ma première question, du coup, les origines de votre duo. Qu'est-ce qui a amené d'abord chacun de vous, Tim et Pierre, vers la musique électronique? Parce que j'ai cru comprendre que c'était pas votre vocation initiale, Pierre, en face de moi. Et puis, comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux?
Merci beaucoup de nous accueillir, déjà. En fait, ça fait maintenant 11 ans, 12 ans qu'on se connaît avec Pierre. Et en fait, on s'est rencontrés donc, la dernière année du lycée, donc on a redoublé, donc on avait 19 ans. Et après, on a lancé ça assez naturellement. C'est comme ça que le projet, en tout cas, a commencé tous les deux. Et après, donc au préalable, moi, j'ai découvert la musique électronique. En fait, moi, je suis né un peu de la culture club. J'ai mon frère qui m'a emmené quand j'ai un grand frère qui a 15 ans de plus que moi, qui m'a emmené quand j'avais 13-14 ans dans les clubs et je devais rester un peu caché parce que, bon, à 13-14 ans...
C'est pas forcément autorisé.
C'est pas forcément autorisé, pas forcément légal. Donc, en fait, t'avais tous les propriétaires des clubs qui disaient « Ok, il peut venir, mais... » Il reste pas sous la table, mais dans un coin, quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu le monde club et j'ai adoré ça tout de suite. Et après, mon frère qui revenait d'Ibiza avec à l'époque des CD, que j'écoutais sur mon autoradio.
Voilà.
Pas d'autoradio parce que j'avais pas la voiture encore, mais sur ma radio, quoi. De mon côté, ça s'est passé comme ça.
Pierre, on t'écoute.
Bonjour à tous. Ouais, donc du coup, le début du projet, il n'y a jamais eu vraiment de début de projet. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais encore dit, même maintenant, qu'on allait bosser ensemble. On ne se l'est toujours pas dit. Ça fait 10 ans maintenant, ce qui est quand même fantastique. Mais c'est génial. C'est aussi pour ça, je pense, que ça marche aussi bien. Parce que même si maintenant, c'est notre travail à plein temps, évidemment, il y a un côté où il n'y a jamais eu de calcul.
La spontanéité, ça se sent dans votre son.
Exactement. C'est ce que j'allais dire. Et ça se sent aussi quand les gens nous le disent encore plus, quand ils nous voient sur scène, où on n'est pas un duo fabriqué comme d'autres, où ça peut marcher. Et attention, je ne juge pas du tout, parce qu'il y en a qui sont très forts. Mais nous, voilà, c'est tellement arrivé naturellement que c'est d'une logique implacable et c'est comme ça. Et moi, alors, le début de musique électronique, rien à voir. En fait, j'ai fait le conservatoire classique donc pendant très longtemps. Et quand je devais avoir, je sais pas, 15-16 ans, je n'avais pas d'argent, ce qui est normal à 15-16 ans. Hein. C'est nos parents qui nous donnent des sous. Et donc, je devais aller acheter des CD pour mes cours au conservatoire. Donc, je sais plus si c'était du Chopin ou du Debussy. Un truc chiant, quoi.
Pas l'électro, en tout cas.
Non, pas du tout l'électro. Et au fait, j'arrive à la Fnac, parce qu'à l'époque, on achetait donc plein de CD à la Fnac, on n'avait pas Spotify ou ce genre de choses. Et je vois en tête de gondole le premier album de Calvin Harris, Acceptable in the 80s, une pochette jaune avec des grosses lunettes mouches.
Oui,
et en fait, je sais pas, je n'écoute pas du tout. Et la pochette me plaît, et donc les 20 balles que j'avais pour le CD du conservatoire, je les ai foutues dans le CD de Calvin Harris. Je me suis fait engueuler par mon père, par ma prof en conservatoire, mais j'ai bien fait.
Est-ce que t'as fait une réinterprétation d'un titre de Calvin Harris?
Pas du tout, parce que je peux pas. Alors déjà, parce qu'il a beaucoup trop changé, donc j'avoue que maintenant, merci à lui de m'avoir mis là-dedans,
mais non, merci maintenant.
S'il nous écoute, mais non, merci maintenant pour ce qu'il est en train de faire. Après, respect de ouf, parce que tout son premier album, j'avais bien aimé l'histoire, il avait fait, son histoire est assez folle quand même, hein, je conseille à tous. Il était à la fac en Angleterre, il a acheté juste un piano MIDI, genre un tout petit, il avait son ordinateur et au fait il est juste resté à la fac le peu de temps qu'il fallait pour pouvoir avoir sa chambre étudiante et il a fait son album en 6 mois tout seul, autoproduit et tout.
C'est
le truc
magnifique.
Est devenu une frappe et maintenant il gagne des millions de dollars à Las Vegas, donc bravo. Mais non, surtout ouais, donc ce truc là m'a vraiment fracassé. Et après le Social Club où j'habitais à Orléans avant de se rencontrer avec Tim quand on s'est rencontré à Blois. Et je faisais les allers-retours en train pour venir juste au social, pas d'hôtel. Dernier train d'Orléans, t'es à 1h.
Premier train du matin.
Exactement. Pour voir DJ Mehdi et tout à l'époque, c'était de la frappe exceptionnelle.
Et t'as pas croisé Tim sous une table? Non, vous avez le même âge du coup.
Non, parce que c'est là où c'est marrant, c'est qu'à la base, on n'avait pas du tout la musique électronique étant tellement vaste, et encore plus à cette époque, j'ai l'impression. Maintenant, c'est en train un peu de... Il y a des codes, que ce soit marketing au niveau de la musique... Les cas sont déjà un peu plus proches. Le Social Club pour Timothée, c'était le diable. Et moi, les premières musiques qui me faisaient écouter, qui étaient un peu plus progressives, donc tous les Suédois, Axwell et tout machin, avant que ce soit la Swedish, House Mafia, pour moi, c'était l'enfer aussi. Donc on se comprenait pas au début. C'est ça qui est très drôle d'ailleurs.
Oui, mais d'où l'intérêt de votre duo justement. Et donc quand vous vous êtes rencontrés, moi j'ai lu qu'il y a un morceau qui vous a mis d'accord, de Masséoplex, et que c'est un peu, enfin un remix d'ailleurs. Fait par Masséoplex d'un morceau, et que c'est là où vous vous êtes dit, bon, on a des choses en commun. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça?
Ça rejoint ce que disait Pierre. En fait, c'est... Avant, on était dans deux cas séparés, et quand on a écouté Masséoplex Think About It, remix de Martin Dawson, déjà, la vidéo aussi est incroyable. Je crois que je sais plus, ça vient d'un film qui s'appelle Airspray. Tout le clip est trop bien avec la musique. Enfin, tout va parfaitement bien ensemble. Et en fait, sur cette musique, on a découvert un point commun, en tout cas musical, et ça a lancé en tout cas tout ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire quelque chose un peu moins vénère que ce qu'il écoutait, un peu moins vénère que ce que j'écoutais, et avec beaucoup de mélodies sur les accords, sur les voix, sur les rythmiques. En fait, un truc un peu plus chiadé et un peu plus, j'allais dire pas calme, mais un peu plus...
Posé.
Ouais, moins brutal.
Oui.
Parce que dans les sons est plus agréable à l'écoute en fait, aux oreilles en fait, tout simplement. Et en fait c'est sur ce morceau on s'est dit il nous a retourné la tête ce morceau. Honnêtement c'est toujours une frappe et si on doit prendre un morceau sur lequel on s'inspire tout le temps encore aujourd'hui c'est celui-là.
Oui, et puis le côté ascendant aussi un peu.
Ouais, il a un côté progressif.
Un Masséoplex qui a un côté dark et qui peut mettre un remix plutôt vers.
Ah mais à l'époque son album Life Index qui sort juste après je crois ce remix ou juste avant je ne sais plus. C'est aussi un album, mais c'est une légende cet album. Il y a pas mieux. Et puis en ce moment, les albums électroniques, c'est un peu toujours la même chose. Donc ce morceau, il est.
Et c'est le côté un peu fusionnel entre vous deux aussi, des deux justement de vos deux inspirations. Une qui est peut-être plus énervée ou dense, et l'autre qui est plus, disons, dans quelque chose de. Allez-y.
On va dire que je pense qu'au début, le Social Club, enfin, tout ce truc-là de Justice, c'est que c'est les nouvelles rockstars qui arrivent de mon côté.
Donc,
il y a vraiment un côté le rock 2.0. Et j'ai jamais été très embêtant et j'ai jamais fait une grosse crise d'adolescence à mes parents, mais c'était ma manière de me rebeller contre le système conservatoire méga classique et poussiéreux que j'avais eu, mais il me manquait quelque chose. Donc c'est pour ça que le Masséoplex nous a bien rejoint, parce que même si maintenant on fait de la musique électronique, j'avoue que même moi de mon côté, de par le parcours que j'ai eu, écouter des tunnels où il n'y a pas de, comme disait Tim, pas de mélodie, pas de vocal, etc., ça va me faire marrer 10 minutes, mais au bout de 15, je vais aller prendre une bière au bar. Et surtout, voilà, le truc qu'on voulait faire, c'est avoir de la musique électronique qui peut s'écouter aussi chez soi, mais qui peut ruiner un club, et d'avoir ces deux, cette ambivalence au fait est super, et c'est ce qu'on essaye à chaque fois dans tous les morceaux de faire, en tout cas.
Oui, bah vous y arrivez très très bien. Pour avoir vu en live des morceaux que j'avais écoutés avant, vous retournez tout autant en live que chez soi, où en fait on peut limite faire ou danser les gens, ou tout le monde peut se prendre un verre, ça dépend aussi du volume du morceau. Il y a d'autres aussi artistes aujourd'hui qui vous influencent, je pense, vous en citez quelques-uns, donc je vais vous laisser dire qui aujourd'hui vous influence, parce que tu parles justement de morceaux qui se ressemblent un peu beaucoup, donc qui fait des morceaux qui ne se ressemblent pas?
Il y en a plein de nouveaux artistes qui sont quand même géniaux. Moi, on se retrouve beaucoup sur la musique de Joop Menk, qui est un artiste hollandais qui va signer justement notre label, on en parlera plus tard, mais il y a aussi musicalement, il y a Sacha Carici que j'adore. Il y a plein de nouveaux artistes qui ont un son un peu différent. En fait, moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est il y a un retour un peu de l'indie dance, enfin les trucs, enfin, ce qu'on appelle l'indie dance aujourd'hui, très carré, très très droit, moi, qui par moments me saoule un peu, voilà. Et donc eux, je trouve qu'ils arrivent à utiliser cette rythmique-là un peu carrée, mais ils utilisent un peu des mélodies très planantes, très lancinantes, très aériennes. Et ça, j'aime bien ce côté électronique.
Pour éviter que ça reste au ras des pâquerettes.
Ouais, c'est ça. L'indie dance, c'est genre le tunnel.
Oui, c'est le tunnel dont parlait Pierre.
Tunnelisé.
Et encore, l'indie dance, il y a quand même ce délire de, il y a toujours un peu de voix, il y a toujours des mélodies, ouais, même si c'est gogol et que t'as envie de faire et que c'est rigolo. Moi, j'adore. Hein, donc je suis très peu objectif, mais en vrai, j'adore. Mais au bout d'une demi-heure, pareil, on aime bien les montagnes russes, donc quelqu'un qui va nous mettre un tunnel, quel qu'il soit, au fait, même dans un truc qu'on aime bien de base. Comme nous, nos musiques sont extrêmement variées, on a du mal avec les mecs qui répètent un schéma toujours
le
même.
Préfabriqué, en fait. On est d'accord.
Exactement.
Et ça, il y en a un qui est très fort là-dessus, c'est Jenny Turtle, qui est lui qui est capable de passer de tout, des musiques classiques bulgares, je sais pas, je donne un exemple à la con, mais à des choses beaucoup plus quasiment techno, après un truc, je dis ça, mais French Touch, je sais pas tout, mais en tout cas il est très fort là-dedans, il peut passer de A à Z en 20 minutes, et ça c'est génial, je trouve.
Oui, donc ça c'est les gens un peu qui vous inspirent aujourd'hui. Et il y a aussi un pays qui vous a beaucoup inspiré, c'est le Mexique, pas pour ses barbecues je suppose, plus pour son festival qui s'appelle Mayan Warrior, qui est aussi un projet artistique, et ça a été un peu l'accélérateur de votre duo, c'est un peu comme ça que tout a commencé, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors Mayan Warrior, c'est pas un festival en vrai, ce sont des Mexicains, et c'était un camp de Burning Man à l'époque. Enfin, qu'il est toujours. Et ce sont les seuls, quasiment les seuls dans les camps que tu trouves à Burning Man qui font des soirées un peu partout sur le globe. Sauf que ils ont donc leur char qu'ils ont à Burning Man, qu'ils ne peuvent pas ramener en Europe. Donc quand ils font des soirées en Europe, il y a pas le char. Mais là, on a eu la chance de jouer. La première fois, c'était à San Miguel.
D'accord.
Donc c'est au nord de Mexico City. C'était incroyable parce que c'était la première fois qu'on jouait live devant des gens. C'était notre première date même après le Covid, donc mai 2021. On n'avait jamais joué le live devant des gens. On se retrouve à le faire à Mayan Warrior, qui est clairement le top 3 de choses à faire quand tu fais de la musique électronique, d'autant plus en live. Donc c'était assez fou. On s'est un peu pris une gifle.
Ouais, c'est un peu comme si vous aviez fait Burning Man pour votre première, quoi.
C'est un peu ça. Bah, nous, dans nos têtes, c'était clairement ça. D'ailleurs, on a des copains qui sont venus. Enfin, il y avait un truc vraiment assez foufou. Et après, la deuxième fois qu'on a rejoué pour eux, c'était à Tulum. Et là, ils avaient ramené le char.
Ah!
C'est un concept, hein. C'est quand même des neuneux qui ont pris un 33 tonnes, qui l'ont désossé, qui ont mis 10 000 lasers, des flammes, des trucs. Enfin, ça n'a sincèrement ni queue ni tête. Mais c'est fou. Et je sais pas combien t'as caisson de basse en dessous. Donc la première fois qu'il y a une basse qui part, nous on est juste posé au-dessus du char. Et on a peur pour l'ordinateur. Timothée était obligé de garder l'ordinateur un peu d'appuyer dessus. Parce que sinon on s'est dit l'ordinateur va passer,
par-dessus
le char, ce qui est quand même très drôle. Non, ça c'était dingue. C'était vraiment dingue. Et on a beaucoup de chance qu'ils aient cru au projet. En live. Enfin, je veux dire, honnêtement, pour moi, je ne comprends toujours pas comment on s'est retrouvé là-bas.
Mais vous leur aviez présenté quand même une orientation ou quelque chose avant ou rien? Non, ils ont juste vos têtes, ils ont dit ah non mais ils ont l'air cool, allez on les prend sur le char.
Non, le seul truc qu'on a présenté c'est quand on fait la vidéo pendant le Covid, où justement on fait notre live autoproduit à la manière de Serge, oui. Parce qu'ils ont quand même révolutionné le genre. Et donc on s'est dit bah on a 3 mois à tuer, qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons un live, parce que au moins ça nous a fait une pause, donc on avait le temps pendant 3 mois de travailler sur ça. Et c'est cette vidéo-là qui a fait que vraiment ça a explosé, qu'on s'est retrouvé avec des agents américains et ainsi de suite, et qu'on a pu après avoir du Mayan Warrior ou des choses comme ça. Donc non, c'est tout découle un peu de cette vidéo. Et en plus d'avoir Mayan Warrior en première soirée juste après tout ça, tout le Covid qui nous arrête tous pendant 2 ans, ça nous a vraiment mis sur une espèce de rampe de lancement où même nous on s'y attendait pas aussi vite au fait.
Ouais, quand je dis stratosphérique, c'est un peu ça. Enfin, pour moi, ouais. C'était passé vite parce que votre projet, il date. Enfin, Chambord, c'est 2019. Après, il y a le Covid qui arrive quasi directement.
C'est surtout juillet 2019. Donc, on se fait couper direct au fait.
Bah, c'est ça. Et d'arriver justement sur un Mayan Warrior et les dates ensuite que vous avez eues, et vous revenez quand même de Sonar, qui pour moi est la référence, surtout la scène où vous étiez. Parce que maintenant, il y a un peu le gros qui va, comment dire, dans la main, mais les scènes où vous étiez avec Storytellers et tout, c'est génial. C'est là où Agoria a joué avant. Enfin,
c'est iconique, c'est clairement iconique. Mais c'est assez fou de ce qu'on a fait en un an, je pense que tout le monde voudrait le faire. Et honnêtement, on n'a pas encore le recul nécessaire, mais c'est un truc incroyable ce qu'on est en train de vivre en fait. On a fait l'ADE avec Garden of Babylon, on a fait donc le Sonar avec Storyteller, on a fait Mayan Warrior. Honnêtement, quand on a commencé il y a 10 ans, si on devait faire une to-do list de tout ce qu'on voulait faire, on n'est pas loin de la finir. Il manquerait plus que de jouer sur la Lune et jouer à Burning Man et jouer sur la muraille de Chine ou je sais pas quoi. Honnêtement, on n'est pas très très loin de la finir. En tout cas, de ce qu'on veut faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter. Alors là, c'est juste le début. Mais ouais, voilà. Donc tout ça, c'est assez exceptionnel, quoi.
Ouais, mais en tout cas, c'était assez intéressant parce que ça s'est un peu accéléré. Pour vous, et en même temps vous avez quand même continué à produire, donc tout en faisant tous ces lives et en allant un peu partout dans le monde. Vous nous avez sorti un Wonderland en 2020, alors je pense que vous l'aviez bossé au tout début, c'est ça, ce titre là
Je crois que Wonderland il date, je sais plus quand. Là, on a 2020. Commencé avant le Covid celui-là,
donc c'était avant le Covid.
Attends, je sais plus, honnêtement il y en a tellement que...
En vrai de vrai on a triché, on n'est plus du tout en studio depuis un an malheureusement, et au fait on a tellement charbonné pendant les 3 premiers mois de Covid que tout ce qui est en train de sortir
mais
date de cette époque-là.
Comme beaucoup.
Non mais vraiment, parce qu'en fait on a en ce moment on a vraiment pas le temps, ça ce qui nous dérange un peu, mais bon, il faut bien choisir un moment. Mais vraiment tout ce qui est sorti là est de début 2020 en gros à peu près. Et tout ce qui va sortir encore à la fin de l'année, à part les remixes pour le coup,
oui.
Où quand on avait des demandes, c'est les seuls moments où on a pris un peu de temps pour être en studio une semaine ou deux. Mais sinon, tout le reste, tous les originaux qui sont en train de sortir en ce moment sont des choses qui sont du début 2020 en fait.
Et Pierre, comment vous choisissez l'ordre alors, vu que ça a tout été fait au même moment?
Ça, en vrai, j'avoue que en fait, c'est surtout Timothée qui chapeaute le tout. Donc je ne sais pas comment on choisit l'ordre, donc je vais le laisser répondre.
Non, en fait, c'est pas forcément nous qui choisissons l'ordre, c'est les labels, en fait, en envoyant les démos au label, c'est eux qui choisissent un peu, et après, nous, on a 2 semaines, soit avant, 2 semaines, soit après. Là, par exemple, depuis début, de fin mai jusqu'à mi-juillet, on a déjà 3 tracks qui sont sortis, et on a une qui sort bientôt dans 2 semaines, là, un remix pour un pote, et là, jusqu'à la fin d'année, on est bon. Début d'année prochaine aussi, je pense. Honnêtement, tout ça, c'est quasiment que des tracks Covid. Et en fait le truc aussi mais c'est des tracks Covid parce que justement on était tellement inspirés, et en fait notre studio il est à la campagne, donc en fait on peut pas, quand on est à Paris tous les deux, on peut pas, enfin on bosse sur nos ordi chacun de notre côté, mais on n'est pas vraiment ensemble, donc il faut qu'on prenne la démarche d'aller chez nos parents, et le studio est là-bas, et là on peut vraiment bosser et vraiment se donner les moyens de faire ce qu'on veut faire.
Ouais, enfin, donc clairement cette année vous n'allez pas avoir le temps d'en refaire. Là, apparemment vu le programme que vous avez.
Peut-être c'est... en septembre, ça, après le burn, là normalement on va faire Burning Man. Après normalement si tout va bien, on est toujours à la recherche de tickets. Bon d'ailleurs on fait une petite annonce. On cherche 2 tickets, s'il vous plaît.
Vous pouvez demander à notre invité de l'épisode 3. Vous pouvez demander à Kate peut-être.
Ah Kate, oui, je ne l'ai pas encore demandé, mais
mon avis, vous devriez mutualiser.
Eh ben, on va lui demander. Je lui envoie un message tout de suite.
Kate, please. Help us.
They are looking for tickets. Oui, et d'ailleurs, en fait, vous aviez fait... Donc, on en était à Wonderland. Vous m'avez fait revenir en 2022. Oui. Vous êtes géniaux. Donc, on va passer à Reconner, parce que quand même, c'est un titre majeur pour ceux qui sont un peu plus vieux comme moi. Cet album-là, il date d'il y a plus de 10 ans, donc 2007.
2007, ouais.
Ouais, c'est ça.
Skin Rainbows.
Voilà, et c'était pas un album spécialement d'une humeur très joyeuse, dirons-nous, même s'il est magnifique, et vous avez réussi à en faire quelque chose de vraiment très différent. Donc comment ça s'est passé, puisque justement vous le travaillez pas de la même manière, vous m'avez dit que les remixes ça se passait pas de la même façon, et comment surtout on a Radiohead qui dit ok, vous pouvez remixer notre titre, parce que ça me paraît assez complexe.
Ça l'est complexe, et c'est toujours très complexe d'ailleurs aujourd'hui. Alors en fait, comment ça s'est passé, alors je sais plus quand on a commencé, je crois que c'était en 2018 ou 2019. En fait, on a trouvé les stems sur Internet. Donc les stems, c'est genre les pistes séparées,
ouais.
Des morceaux. Donc on avait la guitare, la voix. Je pense qu'il y avait la batterie, tout le morceau séparé. Et en fait, on commence à faire le remix et on voit que il y a un truc quoi. Il y a vraiment un truc qui a une magie, il y a un truc génial sur ce morceau de base. Et après. Ouais, le travail, le remix est juste top. Et on a des super retours à chaque fois qu'on joue. Et en fait, la première fois qu'on joue, c'est sur live qu'on a fait sur le Lille. Et je pense que 90% des demandes, ça a été sur ce morceau-là. Et donc, en fait, maintenant, on est avec une manageuse qui s'appelle Alaya et qui est avocate. Et par miracle, qui a contacté le label donc, qui s'appelle XL Recordings et qui nous a eu les droits.
Magnifique.
Donc on a la licence, on n'a pas vraiment les droits, on a la licence, c'est-à-dire qu'on a le droit
licence d'exploitation.
Exactement, on a le droit de l'exploiter sur un certain temps, c'est suffisamment longtemps, donc ça c'est bon, et sur un territoire, le monde, donc ça c'est encore très bien, parce qu'on peut pas encore aller sur la Lune. C'est assez, assez gros, et donc comme on s'était dit qu'on avait les droits à la licence, et qu'on voulait faire un label, c'était l'occasion parfaite. De créer notre label à ce moment-là et donc de sortir comme premier morceau un remix officiel de Radiohead.
Ce qui est quand même énormissime, hein, parce que...
Ouais, j'en ai des frissons, ouais, là, voilà. Si tu vois. Honnêtement, on en a toujours du mal à croire ça. C'est assez, assez incroyable, ouais. Donc ouais, c'était une super opportunité. On est très contents que ça soit chez nous, à la maison, et voilà.
Et pourquoi Around Midnight, d'ailleurs, pour le nom de label ?
À la base, on adorait un nom qui s'appelait Midnight Runners. Désolé pour ce superbe accent anglais. Sauf que du coup, on s'est quand même renseigné un minimum avant de faire un label, parce que ça se fait pas. C'est assez simple, mais si on veut avoir, parce qu'on voulait aussi avoir du merch, etc. On a toujours tout ce qu'on fait dans notre vie, même si on s'est jamais dit qu'on travaillait ensemble, on le fait toujours en vision à très long terme, ce qui fait que par moment on a mis plus de temps que les autres, mais c'est pour ça qu'on essaie de tout backuper tout le temps pour se dire comme ça on n'aura pas de galère dans 10 ans. Sauf qu'au fait ce nom était pris par Reebok pour faire des courses de nuit, ce qui fait carrément sens, hein,
oui.
Jusque là on est carrément d'accord avec eux, à Londres, Boston, New York, enfin dans toutes les grandes villes, ça a l'air assez stylé, je ne fais pas de course à pied mais j'étais à deux doigts d'y aller parce que ça a l'air assez sympa.
Ou de faire un live pour eux d'ailleurs.
Ce serait assez ouf, en vrai de vrai, mais ça impliquerait que comme t'as des gens qui courent, faudrait que la scène bouge. Ça s'appelle Mayan Warrior, en fait.
Voilà, merci.
Voilà, c'est vrai, c'est
vous
cohérent.
Fait,
on peut le conduire. Mais donc, du coup, c'était très compliqué parce que pour la musique, ils nous auraient pas embêtés, mais au moment où on aurait fait des produits dérivés, des trucs, des machins, on aurait pu avoir des problèmes.
Oui.
On s'est dit, on va pas s'amuser à jouer avec Reebok. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on avait un autre nom avant de trouver Chambord. Ça a été, qu'on le veuille ou non, une belle galère de trouver Chambord, même si maintenant ça nous paraît très simple, très cohérent, ce qu'on veut, mais parce qu'il y a 3 ans maintenant derrière. Et donc, au fait, on en avait marre. Donc, on avait plein de noms qu'on aimait bien. Et on a tout simplement fait un sondage avec nos meilleurs amis sur WhatsApp. Il y avait, je sais pas, une boucle de 150, 200 personnes. Au début, on avait mis tous les noms qui nous passaient par la tête. Donc, on en avait 30. Après, t'avais un deuxième tour. Vraiment une élection présidentielle, au fait. T'avais les 30. Les 5 premiers qui avaient eu le plus de sondages ont été pris. Et celui qui est passé devant a été pris à terme. Donc, ça a donné Around Midnight. On est content parce qu'on a quand même le Midnight qui était dedans et qui était dans celui qu'on aimait bien de base, et surtout ça fait assez sens par rapport à la musique qu'on fait. Around et autour de minuit, donc ça peut englober au final une journée entière si on fait un festival. Donc voilà, on trouvait que c'était hyper cohérent, on trouve que c'est joli.
Mais après, justement, ce qui est intéressant dans votre musique par rapport au fait que le label s'appelle Around Midnight, c'est que vous, c'est un peu around the clock, quoi. Parce qu'il y a des morceaux qui peuvent être passés à 20h, comme des morceaux à 5h du matin.
On aurait dû l'appeler comme ça, le label.
Ça fait un peu non rock'n'roll, quand même, si ouais. C'était le nom du label. On adore,
un
mais...
Plus,
non,
ou twist.
Alors, par contre, sur le truc de... On produit des morceaux qui sont joués à 6h du matin... à 8h du matin, à 11h, à midi, à 14h, ça c'est complètement vrai. Un Mamentia n'a pas du tout la même patate que le Radiohead, comme tu disais, qui est nostalgique. Le Wonderland va être un truc j'allais dire peak time, mais même pas au fait, parce que c'est un truc un peu d'apéro où t'as envie de, tu sens que ça peut
c'est
commencer
le début.
À partir. Exactement.
Ouais. Alors Freconor, pour moi, c'est une closing. Hein. Mais
c'est complètement une closing Freconor. Ouais, bon. Ou c'est une closing de sunset après une nuit déjà de festival.
C'est
donc ça fait 18 heures que tu joues quoi. Enfin, en gros, ça close quelque chose. Ça c'est sûr.
C'est sûr. Ouais.
Mais à terme, ce qu'on voudrait, c'est quasiment faire une soirée que avec nos morceaux. Je pense que ça peut coller en termes de cohérence dans 23h, 6h. Je pense qu'on, d'ici 5, 6 ans, je pense qu'on est capable de faire que nos morceaux jusqu'à la fin. Donc c'est un peu le but final, en fait. C'est de faire une soirée que avec nos morceaux, quoi. C'est un peu prétentieux, mais.
Non, et
pas.
De voir qui pense que ce n'est que vous aussi. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup.
D'où l'intérêt, en fait, parce que pour moi, c'est tellement éclectique. Vous avez Bernard Mamentia. Il y avait aussi un que moi, j'avais beaucoup aimé, c'était Distant Time.
Et ouais, il est chambé, celui-là.
Mais c'est un peu un ovni aussi.
Après, en vrai de vrai, maintenant, on préfère la version de Youp que la nôtre.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on est en train de demander il faut qu'on voit avec lui pour pouvoir jouer sa version en live. Parce qu'on la trouve trop bien, en fait. C'est génial d'avoir quand t'as des remixes, moi je suis très chiant sur ça. D'avoir des remixeurs qui te font passer le morceau que tu as composé, mais que tu trouves que leur version est meilleure, c'est excessivement rare. Et donc c'est pour ça qu'on aime beaucoup ce producteur. Parce qu'il est incroyable.
Bah, sur votre dernier, Life is Strange, les remixes sont bien aussi.
Tellement fat.
Ouais, bah en plus Xinobi, c'est un artiste qu'on adore depuis je parle quasiment depuis le début, en fait. Et Lunar Plain, ils sont géniaux tous les deux aussi, et ils nous ont fait un remix, et vraiment il est incroyable aussi. Donc honnêtement, là, sur les remixes qu'on a, on a beaucoup de chance et ils sont tous top.
Quand c'est vous qui travaillez, on va passer à Play, donc la question de comment vous bossez. Alors, je sais déjà qu'il y a un studio à la campagne, voilà. Mais alors, en fait, qui fait quoi dans le duo? Parce que on s'imagine toujours qu'il y en a un qui fait rien pendant que l'autre bosse, mais je suis sûre que c'est pas vrai. Donc, parce que en fait, quand on voit des duos de loin, on se dit, ah, mais il y en a un qui travaille pendant que l'autre fait, je sais pas, il y en a un qui est au platine, l'autre qui joue. Enfin, comment vous organisez ça, en fait?
Alors,
Et dans la gestion du groupe aussi. Comme tu disais, Pierre, il y a des noms à trouver, de la communication à faire. Aujourd'hui,
il y a tellement de choses aujourd'hui. C'est...
Ouais.
La musique, honnêtement, aujourd'hui, au studio, en tout cas, le travail au studio, il représente 20-30% du temps global, quoi, de ce boulot-là. Après, il y a quand même 50% de voyage, ça, c'est très chiant, mais ça, c'est un autre problème. Mais alors, dans le studio, alors, il y a eu une période avant Covid et après Covid. Avant Covid, c'était tout ensemble, tout le temps, où on commençait les projets comme ça à la suite. Et on avait un peu plus de temps parce qu'on avait beaucoup moins de dates, donc ça c'était plutôt ça nous permettait de bosser beaucoup dessus. Et bon, vu que Pierre avec son background, c'est surtout lui qui gère toutes les mélodies et
oui.
toutes les tout, tout
ça
le,
se comprend
tout, bah, c'est plutôt logique. Moi je gère plutôt la rythmique un peu, mais on va dire que j'ai quand même un peu moins de présence sur le studio en général. Donc après Covid, pour le coup, ça a changé un peu la donne, c'est-à-dire que maintenant quand on en a des remixes, ce qu'on fait, c'est que je commence généralement les projets. Et après, je les envoie à Pierre parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller en studio et lui, il rentre plus souvent chez ses parents. Et Pierre les finit de son côté ou avance, après il me les envoie. Enfin, il y a un espèce de ping-pong qui se fait comme ça et donc on a moins en moins de temps d'aller en studio. Et la dernière fois, je pense qu'on est resté 2 jours en studio. On a juste fait des choses qu'on devait faire, des mix, des choses comme ça, des trucs un peu plus techniques et pas de création vraiment.
Ouais, un peu de travail à la maison, quoi.
Ouais, bah ça a changé un peu la manière de travailler parce qu'en fait pendant 6 mois on s'est pas vu alors qu'on était tout le temps ensemble avant en studio. Donc ça a changé clairement notre manière de travailler. Et c'est pas que c'est moins bien ou mieux, c'est que c'est différent. Je sais pas si ça va se ressentir sur les productions, je ne pense pas.
Et en live un peu, Pierre aussi, c'est quelque chose où le fait que vous ayez vous avez peut-être maintenant que vous faites beaucoup de live et que vous tournez beaucoup, est-ce qu'il y a des choses quand vous jouez là où tu dis ah tiens ça m'intéresse, on devrait reprendre ça ou pas du tout? Vous êtes vraiment dans la performance et
alors déjà en live c'est 50-50, c'est-à-dire qu'il y en a pas un qui est
on est d'accord,
c'est impossible de faire le live comme on est en train de le défendre avec un de nous deux qui serait pas là, c'est injouable. Comme disait Tim, en fait le truc c'est que moi j'ai toujours, du fait de mon background de musique, j'ai toujours préféré composer que d'écouter. Ce qui fait qu'en fait, quand on parlait des artistes qu'on aime bien, c'est Tim qui me fait écouter toutes les nouvelles musiques. J'en écoute de moins en moins pour éviter de plagier, en fait, tout bonnement. J'écoute pas du tout de musique électronique quand je suis chez moi. Et surtout, le truc, c'est que ouais, ça a un peu changé. Je pense que là, ce qui peut changer, c'est comme maintenant on joue live, et comme on va rebondir sur le Wonderland, le vrai truc d'avant et après Wonderland, c'est que c'est le premier morceau où on ose mettre nos voix.
Oui, c'était
et
un peu.
Et à ce moment-là, on joue pas live. Sauf qu'au fait, comme après, on se retrouve à jouer live, il devient de facto notre intro. Parce qu'on se dit, en termes ne serait-ce que visuels, c'est intéressant d'arriver. T'as deux minutes d'intro, t'as les deux mecs qui commencent à chanter, et donc ça va tuer.
Et qui pose le truc.
Là, je t'avoue que depuis un an qu'on joue, moi aussi, c'est mon moment frisson. C'est, lui, c'était Radiohead. Moi, c'est Wonderland. C'est mon petit bébé. Je l'aime beaucoup trop. Ça, en fait, ça restera. Il y a des morceaux comme ça, tu sais, qui sont hyper importants à un moment.
Ouais,
pas forcément
sent.
En termes de stream, mais le Wonderland, peu importe ce qu'on fait, même si un jour on fait, je sais pas, l'Olympia en live, ce qui serait aussi ouf en termes de challenge de faire un live purement électronique à l'Olympia, moi, c'est dans ma to-do list.
Simon, French 79, si tu nous écoutes. Bonjour.
Ouais, ce serait. En fait, nous, vraiment, on est venus gratter les podcasts d'avant. Donc, on veut les contacts de tout le monde, s'il vous plaît.
Là, vous étiez tous à Marvelous, donc.
Ouais, ça reste.
En même temps.
Mais voilà, donc le Wonderland, tu vois, il y a un truc de. Ça restera, je pense, toute notre vie. Un peu comme on disait Mayan Warrior, c'est la première fois qu'on a joué en live. Il aura une valeur sentimentale. Wonderland, ce sera l'intro à vie de la première année ou des deux premières années où on a joué live. Donc, il aura toujours une valeur sentimentale. Et donc, en ce moment. On le fait plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, on se dit quels morceaux sont défendables à jouer en live. C'est-à-dire quand on a les pianos, toutes les rythmiques et tout, de pas trop les charger pour justement pouvoir faire le maximum de choses en live, mais qui pourraient aussi marcher en DJ set. C'est comme on est en train d'être beaucoup plus booké maintenant en live qu'en DJ set, même si on veut continuer à faire du DJ set, parce qu'on adore faire les deux. Les deux sont deux un pas incompatibles et ont leurs avantages et leurs défauts complètement différents. C'est peut-être là où on va sentir une différence, parce qu'il va y avoir beaucoup plus nos voix sans les mettre tout le temps, parce que même nous, on en aurait marre un moment. Mais voilà, ça va être plus axé ça. Mais alors par contre, au niveau des rythmiques, du groove, des mélodies, vous allez retrouver encore toujours pareil, donc de la musique de 10h du matin à 6h du matin, 24h, enfin 20h après.
Donc oui, c'est très précis. Merci Pierre, il m'a fait une question play, mais genre de A jusqu'à Z, c'est super.
Ah, on demande des précisions.
Ah mais oui, c'était magnifique. Non, et surtout, on comprend, en fait, on comprend un peu quelle a été, même si vous dites que vous avez fait beaucoup de choses spontanément, il y a quand même un peu des repères et qu'on sent quand on vous écoute. Si on se prend toute la discographie Chambord, on sait qu'il y a des morceaux où il y a quelque chose un peu qui fait pivot entre deux phases de votre vie, même si on connaît pas tout, etc. Wonderland, il faut vraiment l'écouter. Je le redis parce que
c'est adorable. Et pour le bonus, typiquement le Life is Strange, on le fait à l'inverse. On avait la prod, comme on fait ce fameux live sur l'île où on se dit il faut jouer live, comme on avait déjà le Wonderland qui allait être notre intro, on s'est dit on peut pas faire qu'un seul morceau pendant le live où on chante, ce sera vraiment, ça fera un peu cheveux rajoutés sur la soupe, surtout si c'est le premier, c'est ridicule, donc il a fallu qu'on en fasse plus ou moins un deuxième, c'est là où ça fait sens, et le Life is Strange est arrivé pendant le confinement, juste avant qu'on fasse ce live autoproduit sur l'île.
Ah génial, ok.
Et en plus, je
Rebondis,
merci sur le Distant Time, qui a pour le coup pas du tout le même, qui est totalement différent en live qu'en DJ set en fait, pour le coup en live, enfin, à la base, c'est pas du tout un morceau live, parce qu'il n'y a pas énormément de choses dedans.
Pour moi, c'est un morceau
mais,
DJ set, mais je...
Mais dans le live, il a un rôle tellement important parce que c'est lui qui fait le
pivot,
qui fait la colle.
Les deux,
ouais. Il y a toujours une histoire de pivot chez nous. On est
oui.
peut-être basketteur au final, hein, dans une autre vie. Mais ouais, en fait, la version live de ce morceau est aussi top. Et donc, ouais, à chaque fois, on essaye soit si on a un morceau très DJ, on le colle en live et en changeant un peu toute la structure, etc. Et sinon, on a des morceaux qui sont faits plus pour le live et qu'on utilise pour le live.
Et qui en DJ set marche aussi très très bien.
Bon, on espère, oui, je pense que...
Non, mais Reconner, moi, qui est plutôt pour moi un morceau que vous pourriez passer en live remis un peu, tu vois, en DJ set, il passe super.
Un seul qui passe dans les deux. It's been a while. C'est tout.
C'est tout ?
Non, mais dans le sens, c'est l'enfant prodige. Je te faisais chier avec le Wonderland, It's been a while.
D'accord.
On a un à écouter. Écoutez celui-là.
Ouais, mais pour moi, il est beaucoup plus... c'est marrant. Ouais, il est beaucoup plus DJ.
En live, c'est un truc de zinzin.
J'aimerais que vous me parliez d'un de vos projets qui n'est pas que musique. Ça s'appelle Bye Bye Plastic. Et vous avez monté une première édition de ce projet avec Blondie chez Camille. Et j'avais cru lire qu'il y en avait une deuxième en préparation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, c'est pas vraiment c'est plutôt des projets en fait qu'on fait avec eux. En fait, Bye Bye Plastic, c'est une association qui donc veut essayer de retirer le maximum de plastique dans l'industrie musicale. C'est un challenge très compliqué parce que bon, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple, le plastique pour boire sa tequila ou je sais pas quoi. Et donc on les a aidés en fait en faisant notre live de mi-juillet 2020, on a fait donc le live sur l'île. Et en fait, on a fait en même temps une cagnotte pour aider l'association parce que aussi pendant cette période, bah, ils avaient pas beaucoup de revenus parce que toute l'industrie était à l'arrêt. Et donc en fait, on s'est servi de la vidéo pour promouvoir un peu aussi cette association qui nous tenait à cœur et qui nous tient toujours à cœur. Et donc là, le deuxième projet qu'on est en train de lancer, c'est qu'on est en train de faire une compilation avec eux, donc avec les artistes qu'on adore, qu'on va représenter. Donc il y aura sûrement plusieurs tracks. Il y aura des tracks de Jade, de Elif, de sûrement un track de Blondish, etc. Et donc tous les revenus, pareil, vont revenir à l'association. Et donc en fait, nous, ça nous tient à cœur de bosser aussi sur ça, parce que la musique, ça, c'est vachement important. Mais si on peut aussi essayer de faire passer un message, voilà, et en demandant aux gens de faire attention à ce qui
consomment
moins de plastique, etc., ouais, qu'ils prennent leur gourde en festival ou qu'ils fassent d'autres choses, voilà, c'est autant en profiter, entre guillemets. Je sais plus qui est-ce qui disait que c'est Laurent Garnier qui disait chaque dance floor est politique. Et donc, en quelque sorte, ça veut dire que sur chaque dance floor, on peut passer un message. Et pourquoi pas, autant essayer de le faire, en tout cas. C'est ce qu'on essaie de faire avec eux, en tout cas, avec Camille et Blondie.
C'est très bien choisi. Et donc, la compilation va sortir sur votre label, je suppose ?
Non, ça va sortir sûrement, je pense, en coprod avec Abracadabra, qui est donc le label de Blondie.
D'accord.
Qui nous a toujours, qui est un peu notre marraine, au fait, dans le milieu. Parce que c'est elle qui nous a, c'est elle qui sort le Mamentia, au fait. Donc, tout découle un peu aussi du Mamentia début 2020. Malheureusement, il est sorti en plein Covid, mais ça, personne n'y était pour quelque chose. Et non, je pense que ça va être plutôt ça, de mémoire. Après, de toute façon, le but est d'avoir plein d'artistes qui, entre guillemets, chaque artiste donne une contribution d'un morceau, d'un track. Et comme ça, nous, on n'a aucun droit là-dessus, puisque tout est reversé à Bye Bye Plastic, ce qui est super, parce que ça permet d'avoir une compilation déjà avec plein de gens hyper talentueux. L'avantage aussi des compilations, faut pas se leurrer, c'est que déjà, tu as beaucoup plus de noms. On va être genre 20 ou 25 noms facilement dessus. Donc, en termes de force de frappe, tu auras 20 ou 25 personnes qui vont communiquer sur la même chose. Donc, ça va être super. Donc, ça va déjà ramener plus d'argent pour l'association, ce qui est en premier lieu le super truc. Et puis, ça permet aussi de nous, des artistes qu'on aime beaucoup, qui sont un peu moins gros, comme on nous a gentiment proposé de faire la DA sur cette compilation, de pouvoir les mettre. Ça joint l'utile à l'agréable, ça rapporte de l'argent à une super fondation et ça leur permet, eux, d'être affiliés à des plus gros noms, puisque Blondish fera sûrement partie, elle aussi, de la compilation. Donc pour des petits producteurs en devenir qui n'ont pas encore sorti beaucoup de choses, c'est une super opportunité, en plus en faisant une très bonne action.
Et un super engagement pour tout le monde.
En fait, c'est bénéfique pour tout le monde et c'est super, quoi. Et je trouve que les compilations, moi, comptent. Des compilations, des various artistes, tous ceux qu'on voit passer. Si c'est pas pour être pour une association, je trouve que c'est un peu bête.
Il y en a eu pour l'Ukraine récemment et je trouve que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans la musique électronique et c'est une bonne chose, c'est-à-dire de donner un sens, un peu comme il y avait dans les années 90, mais comme tu dis, Tim, c'était un engagement politique, c'est-à-dire qu'il y avait des cassettes qui sortaient pour ou contre certaines choses avec des compiles qui se passaient un peu sous le manteau, si je me souviens bien de ce que Agoria racontait. Et là, on est un peu dans un engagement où en fait les compiles, au lieu de devenir un produit marketing, parce que finalement le streaming, on a bien compris, ça rapporte pas grand chose, ça devient un produit d'engagement. Et donc là, ça prend un sens en fait, plutôt que d'être la compile Dance Machine 50 qu'on connaissait quand on était gamin, c'est quand même un peu mieux.
Et c'est surtout super important parce que comme tu dis, toute la musique électronique maintenant, il y a tellement d'argent en jeu que ça devient très marketing. Un peu trop, même parfois, que ça revienne un peu aux prémices quand les gens faisaient des raves. Nous, on peut plus connaître ça parce que maintenant, c'est que des gros festivals organisés. Donc, si ça peut servir, comme à l'époque, quand les premières personnes qui ont fait des soirées dans les années 90, c'était pour le côté politique ou pour tout mouvement LGBT, faire des trucs assez ouf, tant mieux, quoi. Qu'on essaye de garder ça un minimum, c'est déjà tellement maintenant devenu une machine de guerre, une machine à cash, que si on arrive encore à garder un peu d'humain, c'est pas mal, quoi.
Et du sens. Non, mais bravo à tous les deux, c'est super. Et c'est censé sortir quand? C'est en cours.
Alors, ça va sortir pendant la DE.
D'accord.
Donc on va faire sûrement une petite soirée avec donc Camille et Blondish à ce moment-là. Donc je sais plus les dates de la DE, mais ça sera dans ces eaux-là, je crois que c'est mi-octobre.
On le mettra dans les notes de l'épisode.
Voilà, parfait.
C'est à ça que ça sert. Pour terminer sur votre actu à vous, vous avez un gros summer tour prévu. Alors Pierre m'a déjà un peu répondu sur l'évolution du live et la façon dont vous voulez faire ça. Donc, est-ce que il y a des endroits, vous allez un peu, donc il va, tu m'as dit déjà que ça allait évoluer, vous allez y rajouter des morceaux. Donc, le live qu'on entendra à la fin de l'été aura pas à voir avec celui du début, ou comment ça va se passer? Par rapport à vos différentes dates, je pense notamment à Storytellers, sur lesquelles vous avez des dates, vous revenez à Ibiza plusieurs fois, et vous avez Gardens of Babylon aussi, si je ne me trompe, c'est à Mykonos.
Exactement, ouais. Comme on le disait un peu plus tôt, on a beaucoup de chance, parce que depuis un an, on fait l'équivalent de la Ligue des Champions, pour tout ce qui est soirée et donc qui plus est en live. Mais c'est, ça va plutôt être l'inverse, c'est-à-dire que on va, je pense que le live cet été, comme c'est ça qui est bien, c'est qu'on a été résident pendant très longtemps. Quand t'es résident, t'essayes de changer de morceau parce que voilà, tu ne bouges pas d'endroit. Là maintenant, on se retrouve à être plus ou moins tête d'affiche, même si on est dans les petits noms. Donc on peut se permettre de ne pas changer puisque c'est nous qui changeons d'endroit. Donc on tombe sur des gens qui ne sont pas là 24 heures avant à 3 heures de vol. Donc on va faire le même live tout cet été. Et on va plutôt le faire à l'inverse, comme on va finir par Burning Man, donc avec Mayan Warrior, pour tout ce qui est les sessions live. On va mettre des exclus dedans, parce que normalement notre live fait 1h30, mais avec Mayan Warrior, je pense qu'on va essayer de faire 2h au Burning Man, c'est tant qu'à faire, parce qu'on a tellement de morceaux en fait, hein, que autant essayer d'en caler 2-3. Et après, on va le changer donc du coup à la rentrée, quoi, pour octobre, pour quand on repartira au Mexique. Donc pour novembre en fait, refaire un nouveau live. Et même là, je pense qu'à ce moment-là, on essaiera de garder plus ou moins la version 1, version 1 bis et version 2. Et comme ça, on pourra changer un peu, même en fonction des temps qu'on a, parce que peut-être qu'on va se retrouver sur des plus gros festivals l'été prochain. Et quand t'es vraiment sur des trucs énormes, même 1h30, t'as pas le temps de les jouer, ils te demandent des lives d'une heure, ça peut aussi arriver. Ce qu'on n'a pas en ce moment, ce qui serait pas cohérent de le jouer en 1 heure. Donc voilà, d'avoir 1 heure, 1h30, 2 heures, et de pouvoir comme ça un peu changer et pour même nous pas trop s'ennuyer. Parce
non, bien
que
sûr,
à un moment donné,
répétition.
Exactement, ça peut devenir un peu rébarbatif, même si on adore toujours le faire. Mais c'est vrai que c'est, on aimerait bien changer. Là, on sent qu'il est temps de changer. Mais en même temps, on l'a joué qu'une vingtaine de fois. Donc
non, c'est votre temporalité qui est très courte en fait, parce que, enfin, ouais, c'est depuis le début de l'interview, c'est ce qu'on dit. On parle quand même d'un début de projet en 2021 finalement, en live.
Complètement.
Enfin, voilà. Donc on est sur 1 an. Donc c'est normal que vous, enfin, que pour vous, ça devienne quelque chose de très, enfin, d'habituel, mais en fait pour beaucoup ça allait pas de faire autant de live en si peu de temps, donc il y a aussi ça.
Quand on voit les autres en plus, pour le coup on se compare à très peu de gens. Par nous-mêmes on s'est un peu retenu en disant en fait on commence à l'avoir dans les mains, on s'en rend compte maintenant, on joue beaucoup mieux qu'en mai 2021 à Mayan Warrior, c'est complètement logique. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit il faut essayer de ménager un peu la chèvre et le chou, expression complètement désuète, mais on adore. Ouais, pour avoir un truc voilà un peu cohérent, parce que ça sert à rien non plus de changer toutes les 10 fois, parce que il y a des gens après qui peuvent être aussi déçus parce que on n'aura pas le temps de faire un morceau qu'ils aimaient bien s'il est sorti. Enfin donc voilà.
C'est encore votre carte de visite quand même, donc.
Exactement. Je pense qu'on le changera à peu près tous les 1 an et demi. On fera des coups de lifting tous les 1 an et demi, mais jamais du sol au plafond, c'est-à-dire 50% du track listing qui.
Pas de botox, non.
Qui sortira d'un coup, exactement.
Et tu vois le live de Rampu, je sais pas si tu connais le live de Rampu de Burning Man 2016-17, je sais plus. Enfin je sais plus. Moi c'est le lien Saint-Claude que j'ai plus écouté de ma vie. Honnêtement, je pense qu'il y a 250 000 écoutes, j'ai dû l'écouter, je sais pas, au moins plus de 1000 fois. Il est fou ce live.
Je vais l'écouter.
Mais il a pas énormément changé depuis. Et là, il était à Offsonar avec nous sur une scène à côté, enfin l'autre scène à côté, et j'ai l'impression qu'il a changé. Et donc là, ça m'a redonné une petite étincelle. Là, j'ai envie de réécouter ce qu'il fait. Parce que le truc, c'est que aussi avec les lives, vu que c'est un peu toujours la même chose, dès que tu le mets sur Saint-Claude, t'as tout le monde, pas tout le monde, mais t'as, en tout cas les gens de l'industrie, ils le connaissent. Parce qu'ils le mettent en fond dans leur soirée, etc. Et donc en fait, les lives de Yann Blomqvist, de Monolink,
de
Rampu, on les connaît tous un peu par cœur parce qu'on les a tous mis, en fait. Donc ils sont derrière, dans le fond du dîner, ils sont là derrière. Et donc je pense que c'est une erreur de faire ça, parce qu'après, tout le monde connaît ton truc par cœur. Et donc on n'a plus envie de d'écouter
c'est,
ta musique
surprise,
parce que en fait quand t'imagines ta musique t'es avec ton artichaut et ton truc en train de manger et là tu l'écoutes, enfin c'est différent quoi. Ouais, donc c'est pour ça que nous on veut pas déjà publier sur Saint-Claude, et comme ça on garde l'effet de surprise pour les nouveaux en tout cas.
Mais c'est pour ça qu'on le changera après Burning Man, parce que Burning Man implique soit des liens Saint-Claude, soit la vidéo, soit les deux.
Ouais, donc là vous allez être obligé.
Donc en fait une fois qu'il y en a un qui est droppé, ça fait plusieurs fois qu'on nous demande de le mettre, on avait dit non. Burning Man, comme c'est une carte de visite en or massive, on est obligé de la mettre parce que ça ne ferait aucun sens à l'inverse de ne pas le mettre. Mais du coup, on va couper l'herbe sous le pied de tout le monde, on va changer.
Bah c'est parfait. Il y a un autre duo qui a fait ça, et là pour le coup, c'est un de mes SoundCloud les plus écoutés, c'est Birds of Mind.
Ils ont charbonné aussi très fort, et surtout en ce moment, en termes de prod, quand on parlait, donc on les a oubliés, quand on parlait de gens
qui vous inspirent, ouais.
Alors pas qui nous inspirent, mais on les trouve très forts et on est hyper content pour eux parce que ce soit musicalement ou humainement, c'est des super bons gars et c'est des travailleurs acharnés, donc on bravo à eux pour ça. Et là, je pense qu'ils ont potentiellement et probablement le morceau de cet été pour Ibiza avec le Mi Peña qui est sorti sur Get Physical. C'est un avis comme un autre, mais ce morceau est vraiment fou. Enfin, il y a un truc vraiment pour Lille, il va être incroyable, je pense.
D'ailleurs, on a pris une capture d'écran du Shazam avant Lille, et je pense qu'on va le faire à la fin de la saison. Je pense que ça va doubler, tripler ou quadrupler, c'est sûr que tout le monde va le jouer ce morceau.
On est leur community manager en même temps.
Trop
on regarde,
bien.
On leur fait les stats.
Bird of Boar.
Non, bah eux, de toute façon, s'ils ont envie de venir, ils savent qu'ils peuvent. Il n'y a pas de problème.
Venez, les gars, c'est hyper sympa.
Si vous avez des tickets pour Burning Man aussi, s'il vous plaît.
Aussi, ouais. Et ma question bonus track pour terminer, j'aimerais savoir comment vous... Alors, Pierre a un tout petit peu répondu tout à l'heure déjà. Comment vous voulez faire évoluer Chambord d'un duo artistique en une marque en conservant votre spontanéité et votre solarité? Parce qu'il y a des gens qui évoluent dans ce milieu qui, une fois qu'ils ne sont plus spontanés et qui deviennent une marque et donc un... Comment dire, une entité avec tout ce que ça comporte, bah ils perdent un peu de ce qui a fait le... Comment dire, l'originalité de leur début et de leur son.
Alors moi j'avais toujours une blague à la base qui était Road to Grammys 2021 pardon, quand on avait 30 ans, parce qu'on est de la même année avec Tim, on est de 91. Bon, avec le Covid on a pris un peu de retard, donc maintenant j'ai tablé à 35 ans, donc Road to Grammys 2026. Je sais pas ce que ça va donner, je n'en ai aucune idée, je drop ça comme ça. Ce serait marrant d'avoir ce truc de continuer à faire la musique comme on aime la faire, c'est-à-dire ça part tout azimut, mais ouais, ce serait gaulerie. Et sur ouais, moi le vrai truc par contre, pour avoir eu la chance de jouer à l'Olympia avec un groupe de musique un peu plus pop en tant que saxophoniste, l'Olympia c'est vraiment quelque chose. Je trouve que ça, je sais pas, il y a un truc mythique dans cette salle qui est hallucinant. J'y croyais pas moi-même avant d'y rentrer, et au fait il y a une saveur, il y a un truc vraiment particulier qui se passe là-bas. Donc si un jour on pouvait arriver à jouer notre live qui est pourtant purement électronique, donc qui normalement est pas du tout dans la lignée de Charles Aznavour, tous les grands noms de la chanson française qui sont passés là-bas, et surtout d'avoir, qu'on le veuille ou non, très cliché, mais les lettres rouges marquées Chambord, je pense que je verserai ma petite arme, ouais, quand même. Et Coachella, moi c'est un truc aussi. Parce que c'est tellement ouvert, Coachella, que tu te dis, si t'arrives à jouer ton live là-bas en musique électronique, au fait, pour moi, ils prennent les meilleurs de tout style de musique confondu. Donc, si tu te retrouves sur le line-up là-bas...
Encore aujourd'hui, tu penses?
Franchement, encore aujourd'hui. Typiquement, on aime ou on n'aime pas, mais Polo & Pan, qui ont une...
Ah oui,
qui sont stratosphériques en termes de prod et surtout en termes de continuité depuis 3-4 ans. Les gars, ils se retrouvent à faire main stage. Les Kind Music étaient là-bas aussi.
Oui.
Donc, comme quoi, genre, on peut aussi faire la même... Geza Feuchstein, qui nous sort un live du Turfu habillé en Bayonne Saga avec un casque designé par Marvel. Le gars était là-bas. En fait, pour moi, ça reste encore valeur. Valeur
de
plus ou moins sûre.
Ouais,
carrément. D'autant plus si on fait de la musique électronique et qu'on arrive à jouer le live là-bas, des petits Français, on n'a jamais foutu un pied à Los Angeles, ce sera assez ouf quand même.
Donc en fait, pour toi, l'équilibre il tient dans le fait d'aller, de vous donner toujours des nouveaux objectifs, et c'est ça qui vous rend spontané. Par
plus
rapport
que
à
tout, en fait, c'est, on le fait à l'inverse, nous, il n'y a pas de barrière. On fait la musique qu'on aime, elle nous amènera ou elle doit nous amener.
Mais c'est surtout que la musique est au centre du projet. Après, le reste, c'est que ça soit tout le reste, c'est pas secondaire, mais c'est ça. Enfin, la musique doit être au centre, et après tout se joint autour. C'est les dates, les labels, tout ce qu'il y a autour. Mais ce qu'on veut nous, c'est défendre notre musique et le défendre le mieux possible. Et autant si on arrive à le défendre sur des scènes énormes comme Coachella, Burning Man ou je sais pas, ou d'autres festivals aussi incroyables les uns que les autres, autant le faire. Et c'est pour ça que je pense que aussi on a des bons retours. C'est parce qu'on met ça en avant et on veut le défendre comme ça, en fait. Le reste, les réseaux sociaux, les trucs, ça c'est pas qu'on s'en sert pas, mais c'est qu'on va pas le défendre autant que notre musique. Nous, ce qui est le plus important, c'est ça. Et le reste.
Bah, le reste, c'est aux gens qui vous écoutent de le faire.
Exactement. Et c'est comme ça que je pense que le message passe mieux, en fait.
C'est pas
en te vendant toi, c'est que les autres te vendent.
Oui.
C'est ça la différence.
Ça me paraît très cohérent, et c'est ce qu'on sent dans votre communauté quand on regarde un peu votre compte Insta. Donc, déjà, merci de nous avoir donné autant de temps.
Merci à toi.
Et on espère que votre communauté va écouter cet épisode en entier. Je ne sais pas combien de minutes on a fait, mais beaucoup. Mais c'est très bien.
On s'excuse, mais ça fera un super podcast pour vos voyages en train et en avion.
Ça fera un fois deux, en fait.
55 minutes,
quand même. Deux, donc voilà. Et merci à Tim et Pierre d'avoir participé au 7e épisode de Track Record. On vous souhaite le meilleur pour cet été, pour vos nouveaux projets. Et j'ai personnellement hâte d'écouter votre live.
Merci beaucoup.
Ciao, ciao.
On dit parfois que l'électro est froide, sans âme, car composée avec des machines. J'espère que ce podcast vous a prouvé le contraire, car il me semble qu'il faut encore plus d'humanité pour produire une musique de ce type, qui puisse rassembler autant de gens dans une communion et un engouement qu'on voit rarement ailleurs aujourd'hui. Si vous voulez soutenir Track Record, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous laisser vos commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau Track Record.